Europe 1, la libre antenne, Sana Blanger.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, ravie de vous accompagner dans la libre antenne d'Europe 1, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour une libre antenne où vous pouvez libérer la parole parce que ça fait du bien. Vous le savez, la libre antenne est votre émission. Alors chaque soir de cet été, j'ai décidé de partager avec vous un mot qui m'a marqué ou m'a inspiré dans la journée. Ce soir, j'ai choisi le mot « joie ». Hier, j'étais inspirée par la colère. Aujourd'hui, ce qui m'a marqué, c'est la joie. Alors vous noterez que la colère, comme la joie, font pleurer. Pour autant, vous préférez certainement comme moi, vibrer d'une émotion positive et profonde qui vient en créer un sourire sur vos lèvres, même seul, dans une pièce sombre. À plusieurs, la joie est communicative. Elle se répand de proche en proche, jusqu'à son apogée, le rire. La joie n'est pas toujours au rendez-vous, il faut la convoquer. L'exiger lorsqu'elle est absente depuis quelque temps, elle est la seule à pouvoir vous donner le goût à la vie. Et vous, comment convoquez-vous la joie? Dans les moments plus difficiles, trouvez-vous un espace pour la joie? Partagez votre expérience de joie avec nos auditeurs. Appelez-nous au 39 21 et comme hier, il y a de la place, donc c'est le mois d'août, profitons-en. Pour partager également vos expériences, vos avis, vos histoires de vie, vos coups de cœur et vos déceptions. Si vous souhaitez participer à cette chaîne d'amitié qu'est la libre antenne par SMS, il vous suffit de composer le 739 21 en commençant par le mot nuit ou par mail libreantenne@europe1.fr. Adrien et Bastien prendront soin de vous au standard.
Sana Blanger vous écoute sur Europe 1.
Démarrons cette libre antenne avec Sylvie. Bonsoir Sylvie.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à la libre antenne.
Oui, merci de m'accueillir.
C'est normal. Qu'est-ce qui vous arrive Sylvie?
J'en ai un peu lourd sur les épaules et ça commence vraiment à devenir trop à m'enliser. Et c'est un peu compliqué à force. Et le corps et le mental, beaucoup de choses qui sont trop chargées.
Qu'est-ce qui devient difficile pour vous?
Malheureusement, la pathologie, elle est un peu chronique.
Quelle pathologie?
Du coup, ça s'appelle sclérodermie.
La sclérodermie?
Oui.
C'est
considéré comme un handicap rare. Et du coup, c'est un peu comme une cousine de la sclérose en plaques. Mais c'est un peu différent, il y a des atteintes à la peau, articulaire, interne un peu, et on ne digère pas bien tout, l'estomac, l'œsophage. Et
vous en connaissez la source, Sylvie?
Bien sûr, on pourrait toujours expliquer le début de tout.
Ouais.
En plus, c'est associé à du grand rhumatisme déformant, donc ça fait que mes mains sont un petit peu comme des griffes d'aigle, en gros. Enfin, j'exagère, je caricature, mais petit à petit, elle commence à trop se rétracter. Et c'est pas comme si on peut se masser et limiter, mais en fait, ça devient dur, durci et à force.
Vous voulez
on peut de moins en moins attraper les choses et la motricité, la souplesse.
Vous voulez bien me rappeler le nom de votre...
Alors, ça s'appelle sclérodermie.
Sclérodermie.
Oui.
D'accord. Bon, c'est vrai que moi, c'était la première fois que j'entendais, que j'entends cette...
C'est vrai, c'est considéré comme un handicap rare. C'est comme une maladie rare quand on cherche. Et elle a des lettres à la suite. Parce que, par exemple, ça s'appelle Crest syndrome. Chaque lettre, c'est R-E-S-T. Ben, ça veut dire des choses, mais c'est presque en anglais. En fait, ça veut dire calcinose. Ça veut dire qu'on fait beaucoup de genre de calcinose. En fait, c'est comme de la craie. En fait, c'est comme des genres de petits calculs.
D'accord.
Et ça se loge à des endroits un peu sous-cutanés ou des endroits bizarres. Et c'est gênant, évidemment.
Alors justement,
après...
donc, c'est au quotidien. Qu'est-ce que,
oui.
En quoi ça vous handicape, en fait?
Oh là là, c'est subtil. Presque invisible si on voit debout comme ça, que je mets les mains dans les poches. Que...
Oui.
Ça peut être considéré comme handicap non visible, à part, comme ça, ça ne va pas vous sauter aux yeux.
Mmh.
Et puis, pourtant, c'est plein de choses très embêtantes.
Un exemple de ce que vous ne supportez plus, vous, aujourd'hui, justement, qui fait que, voilà, vous nous avez dit...
Tenir la fourchette et le couteau et couper, comme tout le monde.
D'accord.
Couper, comme ça, tenir bien le couteau, comme les gens distingués, et couper. Ouvrir, dévisser une bouteille de jus ou la bouteille d'huile d'olive, il faut qu'elle soit dévissée à l'avance ou qu'elle ait un bouchon pratique. Il faut que tout soit un peu pratique et tout ce qui est des angles pointus, on peut se cogner à l'endroit où c'est déjà rétracté. Et du coup, on fait comme ça et du coup, on est toute la journée à faire attention à tout.
Mmh. D'accord. Bon, bah écoutez. Et ça fait combien de temps que vous souffrez de cette sclérodermie?
En fait, au début, j'avais des genres de petits symptômes. Les bouts des doigts, ils devenaient violets. En fait, les bouts des doigts, ils n'étaient pas très bien irrigués. Ça s'appelle le syndrome de Raynaud.
Oui,
en fait, il y a plein de gens qui en ont, de façon isolée. Ils sont obligés. Ça ne vient pas bien dans les bouts des doigts, les petits capillaires sanguins, ils restent... Et puis, du coup, en fait, à force de remonter la chaîne, ben, en fait, c'est presque des chocs émotionnels et des grands stress qui ont fait que, des fois, la maladie, en fait, la maladie, c'est comme si on a mal dit. Soit on nous a mal dit des choses ou nous-mêmes, on a fabriqué des silences et puis du coup ça fait des maladies.
Ah oui.
Parce que l'histoire familiale, des fois, elle n'était pas claire ou c'était compliqué.
Oui. Ah, ça, c'est l'explication que vous en avez, en fait, le fait d'avoir supporté de cette...
Et oui, parce que maintenant j'ai 52 ans, mais j'ai fait un travail, j'ai compris des choses. Je suis une hypersensible, j'ai compris beaucoup de choses.
Ouais.
En fait, j'aurais pu devenir mutique ou autiste ou des choses comme ça, mais le corps, il a fait comme il a pu depuis tout le temps que j'étais petite. Du coup, ben, peut-être que c'était en moi et puis que... Déjà, peut-être on a un patrimoine génétique, tout le monde, et puis après, il suffit qu'il y ait des chocs émotionnels ou des intoxications ou d'autres trucs, et puis petit à petit, hop... Ça va faire comme une chaîne et après les cellules en ont marre et après elles créent ça. Je sais pas en fait.
Vous êtes la seule dans la famille à souffrir de sclérodermie?
Oui.
D'accord. Bon. Vous êtes combien dans la famille?
Ben, j'ai une famille un peu éclatée. Et il y a six autres personnes.
Ah d'accord, donc grande famille.
Oui, mais on se voit plus. Il y a eu des grandes divisions et du coup, je suis complètement isolée. Ça aussi, c'est douloureux pour moi.
Vous avez choisi de vous isoler?
Ben, les circonstances ont fait que ben, on se comprend plus. Il y a eu trop de non-dits. Il y a trop de...
Ça, c'est
faudrait
par...
faire trop de travail, de dialogue et il y en a plein qui ne sont pas prêts.
Ça, c'est par
qui
rapport à votre
oh,
famille.
Ben, toi, oh, ben toi, t'as qu'à pas avancer comme ça. Donc, en fait, moi, je me sens niée davantage. Et quand on me nie davantage, ben, on ne me reconnaît toujours pas avec mon histoire. Et du coup, ben, y a des personnes, je ne peux plus les voir.
Alors,
ben, soit je ne veux plus ou je ne peux plus.
Ouais. Mais là, Sylvie, c'est par rapport à votre histoire de famille. Vous, est-ce que vous avez construit votre famille? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Vous avez des enfants?
Oui, avant, j'ai fait une belle vie. J'ai eu une maison.
Oui.
J'ai fait des enfants.
Combien?
J'ai une grande fille qui est presque 25 ans. Mmh. Et après, bon, ça fait une autre union, enfin, c'est un peu compliqué. Après, j'ai un grand garçon, il a presque 21 ans.
D'accord. Et avec... Enfin, ils sont grands, mais néanmoins, à cet âge-là, on reste quand même assez proche de sa famille. Vous n'avez pas de nouvelles ?
Et en fait, eux, ils sont un petit peu dans leur bulle. Et en fait, on dirait qu'ils n'aiment pas que... On dirait qu'ils ne reconnaissent pas que c'est lourd ce que j'ai. Ça les... Ils ne sont pas... C'est pas... Comment on dit ? En fait, peut-être c'est trop leur demander, ou alors eux-mêmes, ils ont trop de problématiques. Et du coup, ils n'arrivent pas... Des fois, ils passent au moins 5 ou 6 ou 7 semaines sans qu'il y ait un seul SMS.
Sans prendre de vos nouvelles.
Oui.
Vous êtes dans quel coin, Sylvie ?
Dans le sud de Toulouse.
Dans le sud de Toulouse. Pas d'amis ?
C'est pas facile parce que c'est pas facile. Avant, quand on a des enfants, des fois on se fait des amis parce que ils vont à la même école, et puis
bien
après
sûr.
Sur le trottoir on discute.
Ouais.
Ou alors une dame, elle a un chien et moi j'ai un chien,
ouais,
et on discute, mais moi j'ai pas ça.
D'accord. Bon, donc vous êtes en train de trouver éventuellement des solutions pour créer du lien social.
J'ai très très beaucoup essayé. Mais vraiment, j'ai vraiment beaucoup essayé.
Parce que 52 ans, vous êtes jeune, Sylvie.
Oui, mais...
Vous travaillez ?
Non, le handicap, il a pris toute la place et ils m'ont mis des pourcentages, là, et du coup, moi, je voulais pas être comme ça. Moi, j'aimais travailler avant.
Qu'est-ce que vous faisiez avant ?
J'ai fait presque éducatrice d'enfants.
D'accord.
C'était avant que je sois mère.
Mmh, bien sûr.
Et puis après, des fois, j'ai fait de la restauration.
D'accord.
Après, des fois, j'ai fait des cultures dans les champs.
Ah oui, bravo.
Après, j'avais un potager.
Oui.
C'était trop bien, en fait.
Mmh.
Là, j'ai pas assez la nature. Et je suis coincée dans cette case de... d'habiter là et d'être hors sujet avec tout ce qui est en adéquation avec ma vraie nature.
Voilà. Oui. Et c'est à ce
je suis complètement décalée.
Bah oui.
Je suis presque une hypersensible pour tout. Je stresse pour un rien. Je fais beaucoup de sueur. Je sais pas pourquoi. Je supporte pas. Déjà, il fait 38 ou 39. C'est insupportable en ce moment. Et puis, l'année dernière, j'ai fait un cancer du sein et j'étais toute seule à le gérer.
Ah ouais.
Mais c'est trop dur ce que je vis, en fait. Des fois, je me pince comme si c'était pas ma vie, mais en fait, c'est ma vie.
Sylvie, ce qui est rassurant dans votre témoignage, c'est que vous en avez conscience. À partir du moment où on en a conscience, c'est que forcément, à un moment donné, on a envie de passer à autre chose et surtout on a envie de s'en sortir.
Eh oui, mais ça veut pas. Je sais pas comment il faut faire. Il faudrait trouver des anges gardiens ou quelques personnes béquilles pour faire des petits bons, arriver au moins à ce mieux. Parce qu'en fait, moi, je suis pas bien ici. C'est pas mon type d'habitat. J'aurais jamais dû me retrouver ici, mais les circonstances de la vie, elles ont fait que je me suis retrouvée ici. Et même tout ce qui est dame, assistante sociale et tout, elle est débordée, elle voit 170 familles, elle m'a dit. Donc moi, après, je suis un cas parmi tant d'autres. Et en fait, elle se doute que j'en peux plus. Mais elle peut pas faire mieux. Des fois, elle essaie d'appeler une dame de Habitat et Humanisme. Mais il faut faire des dossiers, mettre des listes d'attente. Moi-même, j'ai essayé d'écrire des mails à plein de gens. J'ai essayé d'écrire à des lieux comme il a créé Pierre Rabhi.
Super.
Qui s'appelle les Oasis.
Mmh.
Pour essayer d'aller dans un habitat groupé ou des habitats coopératifs. Comme
bien
si
sûr.
On a quand même chacun à peu près sa chambre ou son genre de lieu. Mais quand il y a des moments où c'est bien d'être tous ensemble, eh ben, Moi, des fois, je vois des choses en marchant avec mes yeux, je sursaute. Parce que c'est maintenant, en fait, c'est tout seul. Les gens, ils sont perso, ils sont trop individualistes et c'est très difficile de trouver des gens qui comprennent. C'est trop difficile.
Alors, je vous avoue que à la Libre Antenne, nous avons concrètement beaucoup d'exemples. Hein. On a vraiment beaucoup, beaucoup d'exemples de justement tout l'inverse de ce que vous nous dites. C'est-à-dire, à chaque fois qu'une personne nous a appelé en nous disant « voilà, ça ne va pas », eh bien, il y avait quelque chose qui se créait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Nathalie. Je vais donner des nouvelles de Nathalie. Nathalie nous a appelé en début de semaine, analphabète, malade, atteinte de polyarthrite. Oui. En incapacité de lire et d'écrire. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette histoire ?
J'ai dû entendre peut-être la fin.
Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, et à chaque fois qu'elle a fait une tentative pour trouver quelqu'un, ça ne collait pas, parce qu'il fallait une base. Eh bien, oui. Je remercie Valérie, qui est une auditrice, une fidèle auditrice de la Libre Antenne, qui a appelé Nathalie, et elle est entrée en contact avec elle, et elle va lui donner des cours. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la magie de la Libre Antenne. Alors, bien évidemment, c'est là où on peut se dire, dommage qu'il faille une émission pour pouvoir trouver des solutions, mais au moins, ça a le mérite d'exister. On est là. Donc, voilà. Là, pour vous, Sylvie, on va déjà démarrer par qu'est-ce que vous êtes en capacité aujourd'hui de pouvoir faire. Je dis bien toute seule, qu'est-ce que vous êtes en capacité de pouvoir faire. L'idée, hein, quand je vous pose cette question, c'est on ne se met pas de pression, parce que si vous vous mettez de la pression, vous allez culpabiliser. Donc, surtout pas. Donc, qu'est-ce que vous êtes déjà en capacité de pouvoir faire? Si vous ne pouvez pas me répondre maintenant à cette question, ce n'est pas grave. Vous réécouterez notre échange en podcast demain sur le site d'Europe 1, et puis vous prendrez une feuille de papier, un stylo, et vous répondrez tranquillement à tête reposée à cette question, qu'est-ce que vous êtes en capacité de faire aujourd'hui toute seule? Alors, c'est une question un peu générique, donc maintenant je vais rentrer dans le détail. Qu'est-ce que vous êtes en capacité de pouvoir faire pour vous? C'est-à-dire, est-ce que vous vous voyez aller contacter des associations, par exemple, pour retrouver du lien social? Aller à la mairie pour revoir votre assistante sociale? Essayer de recréer du lien, en tout cas un contact avec vos enfants. C'est qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui en capacité de pouvoir faire?
Je ne sais pas, on dirait que je suis dans une spirale où les portes sont des fois un peu entrouvertes, mais ça ne veut pas, c'est comme un labyrinthe, on dirait que je tourne. On dirait un film, que je dirais l'histoire sans fin.
Donc vous êtes sur un rond-point, vous tournez sans voir les panneaux.
Il n'y a pas, je ne sais pas où c'est.
Il y en a certainement des panneaux. Sur un rond-point, il y a forcément une direction. Maintenant, il faut juste peut-être soit ralentir, parce que vous pensez à trop de choses et vous ne voyez pas ce qui est devant vous.
Parce qu'en fait, ils me laissent tout porter. Les personnes, elles me laissent tout porter. Elles disent, oui, on va rétablir les heures que vous avez droit, mais ça, c'est que dans la semaine du 25 août. En fait, les personnes, elles ne se doutent pas que pendant ce temps, on mange, on se lave, on a du linge sale. En fait, tous les jours, je fais tout, toute seule. Mes mains et tout, mon dos, mais tout, mon cerveau, tout est, n'en peut plus. On dirait que je suis en burn-out. On dirait que j'en peux plus. C'est tellement dur qu'on dirait que je n'ai même plus la force de raconter.
Alors,
on dirait que dès le matin, j'ai envie que ce soit le soir.
Est-ce que...
J'aime pas ma vie. Je m'ennuie.
J'entends. Mais...
j'ai plus l'âme sœur. J'ai plus les outils.
Vous allez vraiment reprendre goût à la vie si vous créez du lien social autour de vous. Vous avez complètement peut-être perdu confiance en vous pour le moment.
Et aux gens.
Non, 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 mais
ils m'ont fait du mal et j'ai perdu confiance en moi et à cause de gens, de mauvaises rencontres et de péripéties, etc., je suis comme un oiseau blessé, en fait.
Je comprends, Sylvie. Vous avez le sentiment qu'en fait, là, c'est un peu la loi de Murphy. Pas de chance.
Oui.
Pas de chance.
J'ai accumulé les pas de chance, je sais.
Mais c'est la chance,
elle
se provoque.
J'ai perdu mes points sur mon permis, je ne conduis plus. Je suis coincée, en fait. Je suis une personne qui ne peut même pas avoir les trottinettes modernes, un vélo, une mobylette. J'aimerais m'échapper. On dirait que je suis en cage. Je me sens un oiseau boiteux en cage, une lionne.
Hier, nous avons eu le témoignage d'une personne qui était comme vous, isolée. Et Blandine nous avait envoyé un SMS en nous parlant des petits frères des pauvres qui peuvent vous aider.
J'ai parlé à des personnes, mais en fait, quand moi je raconte ce dont j'aurais besoin, elles disent « Nous, on ne peut pas faire ça, ce n'est pas dans notre cadre. Nous, on ne peut que vous apporter un soutien de parler. » Moi, j'ai dit « Parler ». J'ai déjà fait, ça y est, je vais parler, je suis une dame.
Alors, un médecin généraliste ou un psy, parce que là vous êtes dans une phase plutôt creuse, hein, clairement, ça, c'est forcément important pour vous de pouvoir effectivement libérer la parole, mais au-delà de libérer la parole, à un moment donné, bon, ça va, j'entends que vous avez besoin de choses beaucoup plus concrètes.
Oui.
Voilà, c'est de ça dont vous avez besoin. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous posais la question, qu'est-ce que vous êtes en capacité de pouvoir faire déjà toute seule aujourd'hui qui pourra vous redonner confiance en vous, mais vraiment petit à petit, hein. Je ne vous demande pas de refaire votre appartement complètement, ce n'est pas là l'idée. C'est petit à petit vous reconstruire et j'ai le sentiment vraiment très fort que ce qui vous pèse énormément aujourd'hui, c'est l'isolement, c'est d'être seule. Même pas la solitude, c'est d'être seule. Vous m'avez dit, je m'ennuie, et vous avez craqué à ce moment-là.
Oui, je m'ennuie. Je ne fais pas les choses que j'aimerais. Ça me manque.
Voilà. Donc,
j'ai des manques.
Est-ce que besoin, envie, de quoi avez-vous envie ?
Oui, ce n'est pas la même chose.
Non.
Sais,
mais... De quoi avez-vous besoin ? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour atteindre à la fois vos objectifs ? Sur l'aspect mes envies pour les atteindre et mes besoins pour les satisfaire. Ah oui.
Je suis pas matérialiste, il me faut pas 36 trucs, il me faut pas des choses dorées partout. C'est pas ça, c'est que
Là vous êtes à l'antenne. Exprimez clairement qu'est-ce que vous aimeriez. Voilà, si vous aviez là maintenant une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez que nous puissions faire pour vous aider ?
Premièrement, si j'avais une baguette magique, j'irais habiter dans une ferme.
Dans une ferme ?
Bien sûr. Je m'en irais de tout ce monde de fou. Il y a trop ici, il y a trop de bruit, il y a trop de fous, des gens qui ne trient pas, qui ne font pas attention à la planète, qui ne font rien. Ils font tout le contraire. Ils disent même pas bonjour. Ils sont impolis. Incivilité en pagaille. J'aime pas être ici. Jamais, j'aimerais jamais plus revoir cet endroit.
Vous êtes dans une ville ? Vous habitez en ville ? D'accord.
C'est une moyenne ville, mais du coup, il y a une route qui s'entend par la fenêtre où je dors.
Sylvie,
et il y a des camions poids lourds. Et le matin, il y a des bruits, des camions à benne qui font comme ça. En fait, c'est horrible.
Ils ont abattu
un arbre alors qu'il y avait des mésanges. S'il y avait mes copains, les oiseaux, c'était presque mes seuls mini-plaisirs.
Et vous vous voyez vivre seule dans une ferme ?
Non, pas toute seule.
Pas
mais
toute seule. D'accord.
Par exemple, c'est comme un peu des gens. C'est comme les lieux que Pierre Rabhi a inventés.
Mmh.
Par exemple, il y avait un mouvement qui s'appelait les Amanéens. Du coup, ça a créé les oasis. Et des fois, il y a des gens qui habitent des endroits comme ça. Il y a une famille avec deux enfants dans ce coin. Deux messieurs là, une autre personne là, une autre personne là. Et puis, ça fait qu'on n'est jamais tout seul, vraiment.
D'accord.
Et puis, par exemple, là, des fois, je marche, ben, je vois qu'il y a une personne dans un jardin, elle a laissé toutes les figues qui sont toutes mûres, qui vont toutes tomber par terre. Ben, moi, bon, par exemple, j'aimerais bien dire, on est à deux ou trois, ben, on sonne, la personne a dit, bien sûr, ah ben, c'est tout. Ben, après, on fait des confitures, même si moi, j'en veux pas, par exemple. Moi, j'en veux pas. Si ça va pas dans mon régime alimentaire, je m'en fiche. C'est pour le plaisir d'avoir fait cuire les figues et que après ça fait des confitures.
Pour les donner.
Marcher, on les donne, on les échange contre d'autres trucs. En fait, moi, je devrais pas être en 2022 ici. J'ai comme la mentalité des années d'avant, des années 70 ou 80.
Alors, est-ce que matériellement, financièrement aujourd'hui, vous pouvez déménager et ne serait-ce que vous installer dans un village, par exemple?
Non, malheureusement, parce que financièrement, je ne suis pas autonome. En fait, il faut avoir des réserves pour ça. Et je ne peux pas. Il faut avoir des petits fonds. Même quand j'ai vu des tas d'habitats jolis, il y a des gens, par exemple, ils ont créé des habitats intergénérationnels ou des choses comme ça, ben, il faut amener un apport.
Donc là, pour le moment, c'est un projet.
J'ai passé des dimanches et des dimanches et des dimanches à envoyer des mails, à téléphoner, à écrire, à laisser des messages. J'ai même élaboré des scénarios que j'ai dit peut-être. Il y a des choses qui s'appellent des solidarités paysannes. Mmh. Du coup, il y a des agriculteurs, eux-mêmes, ils n'en peuvent plus. Ben, du coup. Une personne comme moi, je dis pas que je vais les aider avec mes mains, là. Je vais pas faire des miracles, mais du coup, moi, j'habite dans leur maison. Il y a un coin qu'ils voulaient plus, qui est un peu comme un studio, et ben, du coup, je les aide à des tas de trucs.
Donc, idéalement, si vous arriviez à trouver une personne qui recherche une aide dans une ferme.
Des fois, ça existe, comme du roofing.
D'accord.
Les circuits qui s'appelaient le roofing, c'est comme en anglais, vous savez, W-O-O-F. Ça veut dire work.
Oui.
Je ne sais plus les lettres. Pour farmer, c'est F. En fait, c'est comme si on va aider des fermiers, mais des fois, les personnes n'y vont que pendant 2 mois l'été.
D'accord.
Et là, j'aimerais bien trouver un lieu pérenne et plus habiter, je suis mal tombée en fait. J'en peux plus d'habiter là. C'est en train de muser. Parce que en fait, c'est pas en accord avec ma nature profonde. Mmh. Même ça m'éloigne. Les gens, je sais pas comment ils font eux-mêmes. Par exemple, on cuisine nos légumes. Ben, moi, les épluchures, j'arrive pas à les mettre dans la poubelle normale.
Oui.
Pour moi, il y a 3 poubelles. Il y a la récup avec les cartons, des choses comme ça. Mmh. Après, il y a la poubelle avec des plastiques ou d'autres trucs. Et après, il y a le compost.
Les animaux, vous aimez?
Oui, bien sûr.
Les dromadaires? Parce que je pense à une personne qui vit seule, une femme, et qui élève des dromadaires.
C'est étrange, quand même.
C'est génial. Et oui. Donc, récemment, sur son Facebook, elle disait qu'elle se sentait seule et qu'elle aimerait bien... je pense à elle, là, maintenant. Je me dis, tiens, ça peut être intéressant que je vous mette en contact avec elle.
Ça me ferait un peu peur, mais pourquoi pas.
c'est un peu grand, les dromadaires, oui. Je vous l'accorde. Mais voilà, on est dans une ferme. On est, là, le cadre, ça répond complètement à ce que vous recherchez, en tout cas, ce vers quoi vous avez envie d'aller. Et puis après, de lui développer un potager ou autre. Pourquoi pas, hein, vous savez, après... voilà, je pense à elle. Elle s'appelle Michel. Je vais la contacter pour vous.
Mais elle n'est pas trop vers le sud de la France.
Je ne sais plus du tout où elle se trouve, mais je mets ça de côté, en tout cas. Je le note.
Oui.
Et on voit ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Ça peut être intéressant.
Et aussi, j'ai peur du prochain mauvais climat, parce que dès qu'il recommence à faire froid, bah, c'est l'enfer.
Ah oui,
il faut se couvrir beaucoup les extrémités. Il faut prendre des petites chaufferettes. Il faut les frotter dans nos mains. Parce que les doigts deviennent vite. Et les pieds et les mains. Et des fois, le bout du nez.
Là, c'est par rapport à votre...
Oui, la pathologie reprend
pathologie, ouais.
Dès qu'il fait en dessous de 15, en dessous de 10, voilà, c'est l'enfer. Mais bon.
Bon.
C'est pas vraiment la fournaise, c'est pas très facile non plus en ce moment.
En tout cas...
Et puis, voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Peut-être parler, je sais pas, parler trop.
Ah non, non, pas du tout. Oh, bah, vous savez... Rassurez-vous, vraiment, Sylvie, voilà, c'est la Libre Antenne, c'est votre émission. Et le plus important, c'est de pouvoir vous exprimer tranquillement. Voilà, c'est votre moment à vous. Donc, rassurez-vous, tout va bien. Merci.
En fait, je ne sais pas comment retrouver.
Retrouver ?
Je ne peux pas retrouver mon passé. Mon passé, il est passé. Mais dans ce présent-là, c'est plus qui je suis. Mais on dirait que jour après jour, je m'aliène.
C'est vraiment feuille de papier, un stylo, qu'est-ce que je suis en capacité de faire aujourd'hui ? Déjà, le fait de l'écrire, ça va vous faire du bien. Et ensuite, entre ce qu'on pense et ce qu'on écrit, tout à coup, ça prend forme. Vous voyez ?
Ouais.
Donc, vraiment, ça va vous aider.
Oui.
Et pas de pression. Vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Ça, c'est très important parce que sinon, on rumine, on culpabilise. Et alors, la culpabilité, c'est comme la colère. Hein. C'est pas...
Et oui,
voilà.
Ça ronge.
Ça ronge, absolument. Et ça n'arrange
puis
pas votre...
Le mental, il est trop fort et c'est très fatigant, en fait, de ruminer tout le temps. C'est très dur de lâcher, des fois.
Donc,
d'arrêter.
Voilà, donc c'est en cela que c'est important. C'est vraiment retrouver une connexion positive. C'est faites-vous plaisir tous les jours. Retournez voir si vous avez la possibilité, l'assistante sociale, ne lâchez pas. Vous avez le droit à plein d'aides compte tenu de votre situation, surtout qu'en plus vous êtes reconnu comme handicapé, donc vraiment. Et puis, très important, vraiment, voilà, ce lien social. Donc des associations, si vous pouvez. Moi, je me permettrai donc de garder vos coordonnées et je vous mettrai en contact avec, avec Michel.
Oui. Et puis, s'il y a des personnes qui sont dans le sud de Toulouse...
Oui, absolument.
Ont des idées.
Absolument.
Je sais pas.
Donc, par rapport aux auditeurs...
Vous pouvez aller à la mer, quoi.
Ben, bien sûr. Mais je pense que nous avons entendu.
Je peux toujours encore rêver, encore un tout petit peu, mais des fois, j'ai l'impression que... Mais bon, voilà.
Courage, Sylvie.
Je ne voudrais pas devenir désabusée, vieille râleuse, mais ce n'est pas facile à force.
Je suis certaine que le soleil, l'éclaircie, hein, tout ça va s'éclaircir sous peu.
Oui.
D'accord ?
J'espère.
Oui, il faut garder la foi.
Oui.
Merci infiniment de votre confiance.
Oui.
Bon courage, Sylvie.
Oui.
Et, et on se tient au courant toutes les deux. D'accord ?
Oui, d'accord.
À plus tard.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, Sylvie.
Bonsoir.
Et accueillons tout de suite Marc. Bonsoir, Marc.
Bonsoir, Sana.
Bienvenue sur la Libre Antenne.
Merci beaucoup de m'accueillir.
Qu'est-ce qui se passe, Marc ? Qu'est-ce qui vous arrive ?
Moi, j'ai écouté. Le thème, c'est la joie. Après, je voulais transmettre, avant de commencer aussi, je ne sais pas comment expliquer, parce que dans mon empathie de la difficulté du témoignage d'avant, mais que la personne garde le courage. Et c'est vrai que vous avez apporté des petits indices. C'était très bien de ce côté-là. Et moi aussi, j'ai vécu des moments où j'étais un peu en désespérance de ma vie.
Mmh.
Et je crois que j'ai réussi à accéder à la joie à certains moments. Et j'essaye.
Ah.
Je cours derrière, toujours, pour que ce soit l'émotion qui soit la plus présente après, parce que j'ai quand même aussi beaucoup de moments de tristesse encore, après, vu tout ce qui se passe et tout. Mais je reste dans cette forme de croyance, en fait.
Ah, très bien. Alors, comment convoquez-vous la joie, Marc ?
Ah, moi, en fait, j'ai découvert, j'avais du mal avec ce qu'on nous propose dans le système, entre guillemets, je sais pas si je m'exprime bien.
Mmh.
Et c'est vrai que j'ai pas réussi mes études, je me suis pas marié, j'ai pas eu d'enfant, donc j'ai pas tout ce qu'il faudrait pour être soi-disant.
Vous avez quel âge ?
J'approche des 50, j'ai un peu moins, hein. Je suis encore un quadra.
Oui.
Mais il a faim de quadra.
Oui, ça me rappelle quelqu'un. La fin de quadra, c'est quand pour vous ?
Dans 2 ans.
Oh, ça va. Oh, ça va. Mais oui, non, mais parce que moi, c'est dans un mois, donc c'est pour ça.
Ah,
que je...
Ah, la transition n'est pas facile, là aussi. Hein. C'est vrai qu'il y a le passage, mais justement.
Je vais devoir vraiment, vraiment la convoquer, la joie, ce jour-là.
Non, mais je pense que vous êtes sur la bonne piste. Et donc, oui, mon témoignage, c'est vrai que je suis la libre antenne depuis pas mal de temps aussi. J'ai eu l'occasion de passer déjà à l'antenne.
Ah oui ?
Et oui, comme j'ai, enfin. Et sinon, là, oui, c'est vrai que. Ah, de base, je suis très timide. Donc, c'est pas facile forcément pour moi de parler. Donc, mais sinon, après, oui, c'est de transmettre. Justement, là, quand j'ai entendu le mot du jour, la joie, pour
oui.
moi, donc, ça fait partie des émotions.
Absolument.
Après, il faut comprendre aussi la différence entre émotion et sentiment.
Et sentiment, oui.
Mais voilà, dans les émotions, il y en a un petit peu moins. Après, voilà. Et en fait, une progression. C'est vrai que moi, je me suis. Et puis, ça a été pas forcément très bien reçu de certains de mon entourage, même si je n'ai pas beaucoup, parce que je suis parti vers le côté spirituel.
D'accord.
Et c'est ce qui, en fait, me permet d'accéder à ce. À cette compréhension, quelque part, en fait.
Donc ça, c'est votre secret à vous, ça a été...
C'est pas un secret, au contraire.
Ah ouais ?
J'aimerais que tout le monde prenne conscience qu'en fait, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de la matière avec, justement, un système occidental, éventuellement, et mmh. quand on voit ce qui se passe en plus en ce moment, c'est vrai que ça aide pas à être bien en ce moment. C'est un peu pesant, tout ce qui se passe à travers le monde. Mais en même temps, qu'est-ce que personnellement je peux faire à ça? Et malheureusement, moi, je ne peux rien faire. Donc j'ai décidé de faire pour moi et puis après dans ce qu'on appelle les cercles de proximité. Et si j'arrive à... Des fois, ce n'est pas toujours facile, mais à lier, justement. Parce que c'est ça aussi, moi, j'ai une forme de solitude un peu.
Mmh.
Mais je ne veux pas justement me trouver avec des personnes qui restent dans une vision un peu obtuse, quoi.
Ah oui.
Donc je suis plus, moi, justement, dans un côté philosophique, ça aide.
Oui.
Mais ce n'est pas de connaître les grands philosophes, c'est juste de comprendre, en fait, on est arrivé sur Terre. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Bon, bah, on sait, il y a un papa et une maman, il a mis la petite graine, mais quand même...
Alors, cher Marc, vous l'entendez,
oui.
C'est bientôt les informations. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve juste après. Est-ce que ça vous va ?
Très bien, à tout de suite.
À tout de suite.
La libre antenne d'Europe 1. Sana Blanger accompagne vos nuits.
Nous étions juste avant la pause avec Marc. Marc qui souhaite nous partager son hymne à la joie. Marc, vous êtes là ?
Oui, je suis là. Bah, hymne, je ne sais pas.
Qui est le thème, donc, en tout cas, ce n'est pas le thème, mais c'est,
oui,
c'est le mot du jour. C'est la joie. Hier, c'était la colère. Donc, effectivement, la joie qui est une émotion primaire. Vous nous avez parlé de spiritualité juste avant la pause. Voilà, vous, c'est ce que vous faites. Et vous transmettez en plus, vous partagez. D'ailleurs, la joie est une émotion contagieuse et c'est ce qui vous aide en fait au quotidien. Vous nous disiez d'ailleurs que vous évitiez un maximum les gens qui étaient pas tout le temps, mais très souvent dans une forme de pas de négativité, mais de complainte peut-être. Ou...
Moi, qui sont juste dans la vision de ce qui est proposé par, entre guillemets, le système, ce qu'on entend aux infos, hein, ça aide pas trop, hein, j'ai écouté les infos avec vous.
Ouais.
Donc c'est vrai qu'en ce moment, en plus, on est dans une période assez pesante quand même.
Mm.
Mais malheureusement, moi, à mon niveau, je ne peux rien. Et en fait, ce que j'essaye de proposer, justement, quand je rencontre des gens, c'est pas de revenir sur les soucis qu'on peut avoir. C'est pour ça, même avec quand j'ai eu le standard, après, ils me demandaient aussi mon passé de vie. Si je vous racontais des choses, quoi, limite, on se tire une balle dans la tête et puis on finit l'émission.
Oh,
et en fait, il y a une force de vie,
ouais.
Et de vivre l'expérience.
Mmh.
Et que si on arrive à, à trouver quelque chose. Et moi, ce que j'ai trouvé, même grâce à des livres aussi, hein, parce que j'ai travaillé sur des bouquins, parce que après, moi, je c'est pas le côté spirituel de croire en Dieu ou pas, dans une telle ou telle religion. C'est pas ça, justement. C'est de croire, justement, en nous, quoi. De ne pas être toujours à l'extérieur. Ce qui m'arrive, c'est à cause des autres. Ce qui nous arrive, c'est à cause de nous.
D'accord. C'est une forme de ce qu'on appelle du développement personnel, hein, ce que vous faites.
Oui, non, mais justement, c'est là. Et après, voilà, j'ai travaillé sur le développement personnel, mais qui reste encore à un niveau de la matière.
D'accord.
Et après, il y a le côté où on monte encore d'un niveau. Et là, comme je vous dis, il n'y a pas de question de religion, de Dieu, de quoi que ce soit. C'est justement de se dire, voilà, on s'incarne. Pourquoi ? Comment ? Je ne sais pas.
Oui.
Mais après, tout ce qui nous est proposé, c'est pour nous faire avancer. Et soit on a envie d'avancer avec notre intuition, soit on se laisse diriger par ce qui est proposé par le système, entre guillemets. Et moi, c'est vrai que
D'accord.
je ne suis pas un marginal, justement, mais en fait, je refuse à un certain moment, même dans certains travails, que j'ai pu faire, en fait, je refuse d'aller à l'encontre de mes valeurs. Et j'ai été, justement, enfin, dans commercial un peu.
Donc, est-ce qu'on peut dire que vous aimez les symboles, ou en tout cas, voilà, tout ce qui est symbolique pour vous, c'est important, et guiderait votre vie ?
Ça, c'est clair, hein, parce que moi, justement, dans un de mes des travaux que je peux faire, pour moi, justement, d'un travail personnel, c'est vrai que je travaille beaucoup avec la géométrie sacrée.
D'accord.
Et je ne sais pas, je ne comprends pas, je rentre dans une forme de méditation, justement, avec ces symboles géométriques, avec tout ce qui est les mandalas, avec, justement, justement, c'est pas intellectuel, c'est pas dans le mental. Justement, je lâche et ça vient, je mets mes couleurs qui viennent comme ça et tout, avec ces géométries, avec les triangles, enfin les nombres d'or, tout ce qui est. Et c'est vrai que je sais pas si les gens peuvent comprendre ce que je raconte.
Faut connaître un petit peu l'univers de la géométrie sacrée.
Oui, mais après, il faut du temps pour ça. Et malheureusement, on est dans une société où on n'a pas de temps. Il faut aller se lever le matin de bonne heure pour aller bosser et récupérer sa paye à la fin du mois pour, au bout d'un moment, aller travailler, faire des vacances après tout le travail qu'on a fait. Et en fait, moi aussi, j'ai été ouvrier dans une usine et je me sentais complètement abruti. Et après, j'ai un petit côté, malgré tout, j'ai une capacité de réflexion aussi. Et des fois, c'est vrai que j'ai l'impression que les gens sont pris dans le truc.
Dans le tourbillon de la vie.
Et puis oui, mais ne veulent plus faire un petit effort de...
On n'y pense pas aussi, Marc. Je rencontre énormément de gens dans le cadre également de ce que je fais en parallèle, hein, c'est-à-dire des séminaires, des conférences, etc. Et c'est vrai que... on se rend compte, ou en tout cas je me rends compte, comme vous, que les gens ne prennent pas le temps de se poser et de réfléchir parce qu'on n'y pense pas forcément. On n'y pense pas forcément. C'est vraiment de se poser à un moment donné, de faire une pause, PAUSE, et de se dire, qu'est-ce que j'ai accompli ce mois-ci ? Qu'est-ce que j'ai accompli dans ma vie ? De quoi suis-je fière ? Qu'est-ce que je pourrais éventuellement améliorer ? De quoi ai-je besoin ? De quoi ai-je envie ? Donc je le répète souvent hein, à la Libre Antenne, mais c'est très important. On ne prend plus le temps de savourer et de se rendre compte de ce que l'on devient et éventuellement pour préparer le futur. Donc c'est vrai que voilà, ça a en tout cas le mérite. Vous l'utilisez, vous l'incarnez ou vous le vivez à travers la géométrie sacrée. Eh bien, si ne serait-ce que la méditation ou de se poser, mais vraiment... méditation de la pleine conscience que propose Christophe André, eh bien, on prend le temps de réfléchir et de regarder un petit peu dans le rétro de tout ce qui s'est passé et de ce qu'on a accompli dans la vie. C'est une bonne chose, ça fait du bien. Il y a forcément des choses positives.
Oui, ça fait résonance parce que justement, moi, en fait, comme j'étais plutôt, entre guillemets, éthéré, un peu, j'ai toujours été un enfant un peu, même à l'école, il est dans la lune, il n'est pas attentif. Et après, dans ma vie, j'ai subi du harcèlement sexuel, non, pas sexuel, scolaire. Mais
Scolaire.
justement, parce que j'ai expliqué aussi, je suis tombé, j'ai fait la rencontre d'un pédophile à un moment, mais j'ai réussi à lui échapper. Et ça, c'est une fierté pour moi. Je me suis tombé, justement. Et j'ai réussi à ne pas avoir eu cette expérience aussi d'avoir assez de force d'intuition pour lui échapper. Et ça, c'est vrai que quand on entend beaucoup aussi, malheureusement, beaucoup de personnes ont subi des choses terribles. Moi, après, là, enfin, je ne veux pas repartir dans le pathétique. Moi, je veux repartir plutôt après dans le côté joie. Mais c'est vrai que ce que
Positif et
j'ai.
optimiste.
Voilà, mais en fait, c'est ça. C'est que peu importe ce qui nous arrive, que par rapport à qui, par rapport à quoi, mais en fait, tout ce qui nous arrive est pour nous faire avancer. Alors, c'est qui nous met ça, ces épreuves? Bon, bah ça, chacun est libre de voir ça. Mais justement, ces épreuves, elles sont là pour nous prouver qu'on est là pour essayer d'avancer et devenir meilleur. Et moi, c'est vrai que la richesse financière, ça n'a jamais été mon truc. Moi, c'était la richesse intérieure. J'ai toujours essayé d'être une belle personne. Après, je ne sais pas si je le suis. C'est pas à moi de juger, mais c'est ce que j'essaye de faire. Après, pour revenir aussi dans ma vie, j'ai été avec donc ma compagne. Ça fait plus de 20 ans en plus. Et c'est une femme qui était très, très cartésienne. Et justement, dans le contrôle de tout, de la matière comme ça. Et moi, justement, c'était bien parce qu'elle était un peu mon ancrage. Moi, je suis un peu le ballon d'hélium qui partait dans ces trucs.
C'est une
Et
belle
on a.
complémentarité en fait.
Mais oui, justement,
Ouais,
c'est
je
ça qui est.
comprends.
Mais en même temps, malheureusement, à un moment, cette complémentarité, ça ne peut pas continuer. Parce que
Trop
je
dans
l'ai
le
fait.
sol et vous trop perché?
Voilà, moi je l'ai fait avancer un peu plus perché, mais pas beaucoup plus.
Ouais.
Et elle m'a réancré un petit peu. Mais après, justement, elle, ce qu'elle est, elle était plus dans un côté de la vie qu'on entend tout le monde. Enfin, que moi, justement, pour moi, c'est pas ça. Mais.
Alors, vous nous disiez juste avant que votre philosophie de vie, c'est de se dire, voilà, si on rencontre des gens, c'est que forcément, toujours c'est symbolique, hein, c'est que ça n'est pas du hasard finalement.
Exactement.
Donc finalement, quand il nous arrive quelque chose, c'est plutôt de se dire, qu'est-ce que je viens d'apprendre alors?
Oui, c'est de voir, c'est pas et tout, mais c'est pas forcément d'aller chercher toujours un message à tout ce qui nous arrive. Au contraire, là, c'est
Lâcher
moi,
prise.
ouais, voilà, exactement. Parce qu'à un moment, je me dis, mais pourquoi moi, pourquoi ci, pourquoi ça?
Ouais.
Non, justement, c'est comme ça. On cherche pas derrière ce qu'il y a d'autre. Et c'est vrai que justement, je me suis aperçu que par rapport à ma. Moi, j'aime bien parler de philosophie aussi, quand même. Et donc, par rapport à ma philosophie, en fait, les choses étaient justes.
Ouais.
Et c'est-à-dire juste, pas par rapport à je sais pas qui, juste par rapport à moi encore. Et on m'a reproché d'être un peu égoïste, mais parce que je suis enfant unique aussi, donc. Donc, ça, j'avais des bonnes bases. Mais donc, en fait, oui, de ne pas aller toujours, en fait, dire, bon, bah, c'est à cause de lui, de l'autre, de machin, de
Ouais, c'est
truc.
ce que vous disiez tout à l'heure.
Voilà.
Quelle est ma part de responsabilité?
Et c'est ça, on est tous responsables, mais pas
Acteur.
coupables.
Ouais, je vois. Je vois, je
Voilà.
comprends. Je comprends.
Bon, mais je sais bien que vous comprenez. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Sana. Après, je sais pas dans le truc, mais le message était vraiment avec. Enfin, si certaines personnes, moi, je suis pas thérapeute, tout ça. Mais c'est juste que les personnes croient en elles, surtout, pas en je sais pas quoi, mais en elles, et qu'après, quand il y a des galères, il faut essayer de faire au mieux, essayer de trouver justement des personnes qui peuvent vous aider.
Oui, personne
Mais
ressource.
voilà. Et ensuite, voilà, c'est comme ça, ne pas être contre le truc, d'être dans une. Même des trucs terribles, parce que moi je sais, comme je vous ai dit aussi, je crois, enfin j'ai eu une maladie à un moment, enfin qui m'a inquiété, parce que j'étais encore jeune. On m'a donné éventuellement, on m'a dit, oh là là, c'est terrible, c'est. Enfin. Et au bout du compte, après tout plein de batteries de tests, bon, ils m'ont laissé sortir en me disant, bon, c'est pas ce que vous avez eu. Donc je devais vivre un truc, je l'ai vécu, Je l'ai surmonté et voilà. Je cherche pas à savoir. Et là, je vous appelle ce soir au moment présent. C'est pas dans mon passé, c'est pas dans mon futur.
Okay.
Et voilà. Et j'envoie. Oui, allez, je me lâche. Un message d'amour à tous ces gens aussi. Et gardez confiance. Et ce qui doit vous arriver, et vous aurez le meilleur malgré tout. C'est au bout du compte. Si vous êtes dans la vérité de vous-même, dans l'honnêteté, ça sera que le meilleur.
Eh bien, merci. Merci infiniment, Marc. Vraiment, pour votre témoignage extrêmement positif. Et puis,
merci,
bah, forcément,
Sana.
Moi, je vous dirais, bah, Marc, je vous souhaite tout le bonheur du monde.
Merci à vous aussi, à l'émission, et puis merci à toute l'équipe.
Au revoir.
Au revoir, Sana.
Accueillons tout de suite Jeanne. Bonsoir, Jeanne.
Bonsoir, Sana. Quel plaisir de vous avoir. Mes journées sont beaucoup plus agréables quand je sais que le soir, on va vous retrouver.
Ah, c'est gentil.
Je ne suis pas la seule. Voilà.
Ouais, ben merci
Parce
beaucoup.
Que vous êtes étonique, bienveillante, vous ne faites pas des réponses systématiques, standards et tout ça, c'est formidable. Bon, dites-moi, j'ai bien aimé hier quand vous avez dit qu'il fallait, et c'est vrai, ça peut être une règle de vie, de ne pas se comparer avec les autres, vraiment, j'y réfléchis, c'est très bien, vous m'ouvrez des perspectives encore là.
Ah, très bien.
Alors, moi, je vais vous demander comment vous pouvez m'aider
bien sûr.
À surmonter... je m'en veux énormément parce que l'an dernier, en juin, à 21h, il faisait encore très clair dans la salle de séjour, je n'ai pas allumé la lumière, il y avait une chaise que je n'ai pas vue, je suis tombée, je me suis abîmée les bras, les mains, les poignets, les épaules et le dos parce que je me suis retournée après sur le dos. Depuis, mon mari et mon fils et ma fille aînée. Bon, ils sont dans le pétrin à cause de moi. Et comment faire pour surmonter cette colère après moi ? Voilà.
Ah, alors j'ai presque envie de vous dire qu'idéalement, il faudrait qu'il m'appelle.
Mais c'est... Non, mais vous êtes... C'est moi qui m'en veux. C'est moi qui suis tombée.
Oui, mais vous ne l'avez pas fait exprès, Jeanne.
Ah ben vous dites comme ma fille, mais c'est pas une réponse. Alors aidez-moi à ne pas recommencer des bêtises, parce que c'est pas la première fois, hein, évidemment.
Que vous tombez ou que vous faites des bêtises
ben une fois, vous voulez que je vous raconte rapido ?
Ah ben bien sûr.
Une fois, j'avais ma voiture, on m'avait montré que quand il y avait une certaine panne, vous savez, il fallait lever le capot et mettre deux fils ensemble, quoi. Alors j'étais en panne, donc écoutez bien, je descends de la voiture... Je lève le capot, je mets les deux fils. J'avais oublié qu'une chose, de mettre le point mort et le frein. Donc ma voiture m'est passée sur le pied qui est un peu abîmée, quoi. Vous voyez comment je suis, quoi. Comment est-ce que je pourrais avoir un peu de plomb dans la tête, quoi, parce que...
Ça s'appelle comment, ça ?
Ben, je suis inconscient, je suis quoi, irréfléchi.
Non.
C'est quoi ?
Étourdi ?
Ah, étourdi, merci. Ah, étourdi. Oui, et vous pouvez développer.
Oui, Jeanne, c'est pas inconsciente, c'est étourdie. Bon, maintenant, moi j'ai le sentiment, hein, je vous entends parler, je ressens quoi ? Je ressens du dynamisme, je ressens quelqu'un qui réfléchit beaucoup, voire qui réfléchit trop, qui réfléchit en même temps. Vous êtes présente sur un moment et vous réfléchissez déjà à ce que vous allez faire après, etc. Et en fait, bah forcément, quand on réfléchit trop, eh bien, il arrive ce que vous êtes en train de nous décrire. On est étourdi. Mais maintenant, Jeanne, c'est aussi votre nature. C'est également probablement ce qui fait votre charme. Donc, pourquoi aller contre nature ? C'est comme ça. Bon, là, malheureusement, vous vous êtes vraiment fait... Vous vous êtes fait mal.
Ah oui, parce que je vais vous dire maintenant, je ne peux plus porter mes courses.
Ah.
Je
ne
sais pas si vous voyez.
Ouais.
Je ne peux plus... y a certaines portes que je ne peux pas ouvrir. Vous voyez ? Et alors, ma fille aînée est psychotique, mais elle est adorable, elle est gentille, elle fait tout pour m'aider. Enfin bon, pauvre chérie, c'est pas terrible, parce qu'avant, je l'emmenais à la gym et tout ça, vous voyez le genre.
Oui.
Mon mari, le pauvre, il est très âgé lui aussi. Alors, étourdi. Et si comment faire pour avoir plus de concentration ? C'est possible ? Non, pas mon âge.
Alors... La concentration, ça demande vraiment développer des rituels.
Oui.
Donc de remettre. Alors pour vous, c'est de remettre les endroits toujours au même endroit.
Oui, tout à ça va être difficile.
Ben voilà, c'est pour ça. C'est vraiment la concentration. Bon sang, aujourd'hui, c'est même une denrée rare. Vous savez aujourd'hui quel est le temps de concentration de l'humain avec toute cette technologie? 20 minutes.
On est passé... je ne sais pas.
Voilà, on est passé à 20 minutes de concentration, alors que dans les années 80, on était à 1h30. Aujourd'hui, on...
on est
à 20 minutes.
Je ne suis pas la seule.
Donc, je vous rassure, vous n'êtes pas la seule. Ça, c'est... Maintenant, pour se concentrer, vous demandez d'être dans le moment présent et de ne pas réfléchir à après.
Mais c'est ça. Mais vous m'avez bien cerné, parce que le psy me dit la même chose, mais il ne m'explique pas bien, voilà.
Bon.
Oui, vous avez raison.
Donc,
il ne faut pas que je pense à après. Il faut que je sois. Que je sois une idée après, c'est ça.
C'est exactement ça.
Oui, mais ce n'est pas facile.
Mais non, c'est pour ça que je vous dis, ça n'est pas forcément facile pour vous, parce que ça va vous demander de mobiliser de l'énergie. Se concentrer, c'est de l'énergie, c'est énergivore. Hein, ça demande vraiment, physiquement, psychologiquement, on est vraiment, on est...
Mais ça peut être un challenge.
Alors vous qui aimez les challenges, voilà, justement, pourquoi pas?
Un petit peu exercice jour. Pour commencer, vous pouvez m'en donner un, comme ça.
Pour se concentrer?
Oui.
Ah, alors là, pour de la concentration, eh bien, est-ce que vous pouvez me donner qu'est-ce que vous faites, par exemple, le matin, quand vous vous levez? La journée de Jeanne ressemble à quoi?
Pas grand-chose, je fais rien. Alors, je vais prendre mon café. Mmh. Je déjeune. Je vois si ma fille est levée, parce qu'on a eu le Covid il y a 2 mois, et puis elle est en hypothermie. Enfin, il faut que je la surveille, pour chérie. Et puis sinon, eh bien, je fais en effet ce... Ah, c'est bien de m'avoir posé la question comme ça. Oh, merci, ça m'aide. Mais parce que je fais une chose, et puis une autre, et puis une autre, puis rien à suivre, et puis tout ça. Mais oui. Oh, merci. Ah, en me posant la question comme ça. Eh oui, donc...
Eh oui, vous êtes dans ce que j'appelle en mode pop-corn. Ça va dans tous les sens.
Oui, mais et comment j'en suis arrivée là, dites-moi?
Mais c'est peut-être de l'hyperactivité, de l'hypersensibilité.
Oh, punaise. Mais oui, mais vous avez... Alors, mais en me posant cette question, vous me donnez une piste, parce que, eh bien oui, je vais essayer d'aller au bout de la chose que je commence un petit peu.
C'est exactement cela. Donc,
ça peut m'aider.
La concentration, c'est on respire, déjà on apprend à respirer, on focalise également son attention sur quelque chose, et surtout, quand vous commencez quelque chose, c'est... Quel est l'objectif final? Donc, quand je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout.
Oui, merci. Oh, mais merci, parce que c'est une piste, vous voyez, c'est pour moi, parce que je savais que j'allais dans tous les sens, voilà. Et puis mon mari me rapproche, mais c'est pas de ma faute d'avoir trois idées à la fois, mais vous êtes d'accord que c'est pas de ma faute, hein? Mais
non.
Justement, je vais m'y... Vous voyez, personne ne m'avait donné un guide. Vous voyez, est-ce que vous comprenez quelque chose à suivre?
De concret.
Parce que je ne demande pas mieux, vous comprenez, hein?
C'est très concret. En fait, la concentration, c'est vraiment éviter les distractions, clairement. Donc, c'est en cela que je vous dis, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, parce que... On est distrait quand on pense à plusieurs choses. La moindre, le bruit, les choses comme ça font que on a du mal à se concentrer. Donc, et vous, c'est dans votre nature. Vous avez ça va dans tous les sens.
Une
dépendance à l'endorphine.
Ils sont plus là, mais je pourrais faire un procès à mes parents. Ils m'ont mal fabriqué.
Mais non. non, certainement pas. Voyons.
Oui, mais.
Mais non,
vous voyez dans quel état ils m'ont mis, quoi. Enfin,
alors, en revanche, ce qui est le plus embêtant, c'est quand même ce qui vous est arrivé physiquement.
Mais vous vous rendez compte, c'est-à-dire, vous voyez, c'est... Alors maintenant, quand même, est-ce que ça m'aurait mis un peu plomb dans la tête? mais si vous voulez, la seule chose que je fais maintenant, j'allume tous les soirs la salle de séjour, même si je la connais depuis. Vous voyez, je m'oblige à certaines petites... voilà. Mais c'est tout ce que j'ai fait comme, comme protection. Vous voyez, jusqu'à maintenant, je ne suis pas capable de... d'aller au-delà de... et ce qu'il faut surtout, c'est que je voudrais que je passe par-dessus cette culpabilité que j'ai, voilà.
Oui, alors juste une chose, je pensais à quelque chose également pour la concentration des jeux, vous savez, des...
Oui.
Est-ce que vous faites des mots fléchés, des mots croisés, des...
Non, justement, avec mon mari, je joue au Scrabble, mais même ça, vous voyez, pour mettre mes lettres, j'ai du mal avec mes épaules, quoi.
Donc...
Mais alors, par contre... Oui, j'ai des jeux fléchés. Et alors, je commence et je termine. J'arrête pas en cours de route.
Vous mettez éventuellement un chronomètre et
oui.
Vous vous dites, voilà, pendant tant de minutes, je me concentre sur mon jeu et je ne fais rien d'autre.
D'accord. Je suis contente parce que, vous voyez, ça me donne une... Parce que je n'avais aucune piste. Vous voyez ce que je veux dire ?
Je comprends.
Je n'avais aucune piste, donc j'étais comme ça dans la nature en me disant « Mais quelle est la prochaine bêtise que tu vas faire ?» Vous voyez ce que je veux dire ? C'était...
c'est pour
c'était
ça que
cool,
je...
Merci.
Oh ben je vous en prie, bon. Jeanne. Et puis par rapport à la culpabilité, vous êtes comme ça, encore une fois. Vraiment, il n'y a pas de culpabilité à avoir.
Vous imaginez ?
Elle vous sert à quoi, la culpabilité ?
Ah ben, rien du tout,
bon.
Rien du tout, à être mal.
Ben voilà. Est-ce que vous avez envie d'être mal, encore plus mal ? Non.
Vous avez... Ah mais c'est bien, vous êtes... C'est bien. Oui, vous avez raison. En fait, ça fait qu'aggraver mon mal-être, quoi. Allez, on va dire c'est bien beau. C'est...
Ben vous entretenez un sentiment qui n'est pas, en tout cas... productif, constructif et épanouissant pour vous.
Oui, vous avez, et puis c'est après, puis, et puis c'est peut-être un peu à bon compte me flageller trop, vous trouvez ça, hein, c'est un peu, vous voyez ce que je veux dire,
oui.
Je me méfie de ça aussi, non ?
Oui, non, enfin, laissez votre fille et votre mari s'en occuper, et puis vous pensez à autre chose. D'accord,
mais oui, mais...
Oui, voilà.
Mais oui, donc, et bien, écoutez, donc, vous m'avez, je vais les mots fléchés pour commencer. Hein, voilà.
C'est vraiment puis, de faire une activité, vous commencez une activité et vous allez jusqu'au bout. Ne serait-ce que ça, Jeanne.
Oui, d'accord.
D'accord.
Oh, merci, mais c'est gentil. Mais vous savez, mais c'est formidable. Vous êtes à la fois tonique, à la fois bienveillante, à la fois... Et je peux vous raconter une blague pour la dernière ?
Ah bah bien sûr, Jeanne.
Oui, mais c'est pas déplacé. Non, parce que dans la famille, on fait des concours de blagues. Alors, je m'excuse pour ceux qui l'ont déjà entendu. Alors voilà, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années qui est handicapée et qui est sur fauteuil roulant. Et elle a appris qu'à 50 km de chez elle, il y a une église et le prêtre fait des miracles. Alors elle demande à son frère de la conduire. Il rouspète évidemment au début, il veut pas. Puis après, d'accord, il accepte et il met le fauteuil roulant dans le fourgon. Ils vont à la messe, rien ne se passe. Puis à la fin du service, alors le prêtre traverse l'église, se dirige vers eux. Et puis il regarde le frère, il dit « Tu marcheras ». Elle dit « Non, 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 c'est moi qui dois marcher hein. ». Il reprend, puis il dit « Tu marcheras ». Et ils sortent et on leur a piqué le fourgon, voilà.
D'accord. Bon alors, puisque vous racontez une blague, je vais vous en raconter une.
Oh, je veux bien.
D'accord. Alors, puisque c'est les 60 ans de Spider-Man, est-ce que, elle est très connue aussi, est-ce que vous savez comment on appelle une tomate avec une cape ? Mais une super tomate.
Ah oui. Ah, mais je racontais ça à mes gosses, j'espère qu'ils ne connaissent pas. On fait des concours comme ça,
voilà.
Parce que ça fait du bien. Hein.
Oui, ça fait du bien.
Écoutez, mais je vous remercie.
Mais je vous en prie, Jeanne.
Vous pouvez pas savoir. Mais mes journées, quand vous y êtes le soir, c'est bien. Vous ne pouvez pas savoir.
Merci.
Bon, et puis je vais suivre. Mais dès demain, il faut que je m'y mette, est d'accord.
Et vous réécoutez notre échange en podcast.
Mais
sur...
je ne peux pas, je n'ai pas Internet, madame.
Ah, bon, vous avez noté tout ce qu'on s'est dit ?
Oui.
Eh bien, parfait.
Mais Oui. Et une fois, si vous avez le temps et tout ça, je pourrais vous écrire.
Alors, vous pouvez m'écrire et vous pourrez également nous rappeler. Rappelez-moi pour nous donner de vos nouvelles et nous dire si ça a fonctionné, si vous voyez une amélioration dans votre temps de concentration.
Oui, merci, parce que je vous jure que jusque-là, je n'avais pas de piste. Et j'étais paumée, vous voyez, paumée. Je me disais, tu continueras à faire comme ça et tout ça, merci. Et alors, vous me dites, ça me fait du mal, c'est pas la peine de me faire du mal en culpabilisant. Il faut que j'essaie de plus me faire de mal. Hein?
Bah, idéalement, oui.
Mais je vais y arriver.
J'ai presque envie de vous dire, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Voilà, Jeanne.
Vous avez raison, c'est... À la limite, c'est pour me donner bonne conscience ou quoi? Pourquoi je culpabilise comme ça?
Alors après, ça, je vous invite à en parler avec votre psy.
D'accord. Mais encore vraiment, mais merci. Mais
je vous en prie, Jeanne.
Vous ne pouvez pas savoir le
plaisir,
bien que vous nous
vraiment.
Faites. Merci. Au revoir.
Prenez soin de vous. Au revoir, Jeanne. Et nous accueillons tout de suite Frédéric. Bonsoir, Frédéric.
Bonsoir, Sana.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Merci. Je me permets de vous contacter. Mmh. Je suis déjà passé 3 fois avec Olivier Delacroix en 2020 et 2021.
D'accord.
Je parlais à l'époque des tests ADN que j'avais pratiqués et je m'étais découvert des origines insoupçonnées, notamment en provenance d'Extrême-Orient. Les auditeurs doivent connaître mon histoire, à mon avis. Hein. Ça avait tourné en podcast.
D'accord. Frédéric, permettez-moi de vous dire que malheureusement, en ce qui me concerne, je vous découvre ce soir.
Je sais. Donc, c'est ce que m'a dit Adrien au téléphone.
D'accord. Alors, donc, des origines d'Extrême-Orient.
Oui, en fait, j'avais appelé parce que je m'étais découvert un trisaïeul chinois dont j'ignorais l'existence. J'avais fait des recherches généalogiques pour l'identifier.
Ouais.
Bon, mais ce soir, je n'appelle pas par rapport à ce volet. C'est-à-dire que, à côté de l'ADN, je me suis découvert une passion pour la généalogie.
Très bien.
Il y a déjà 3 ans maintenant, je me suis constitué un arbre à partir de moi, de mes ascendants, les parents, les grands-parents, etc., les oncles, les tantes. Et il faut savoir que sur Internet, les arbres généalogiques peuvent s'auto-alimenter. Vous avez des arborescences qui surgissent de partout. Vous comparez avec les données en provenance du monde entier, que ce soit des autres abonnés de MyHeritage, désolé pour la publicité, ou des dossiers administratifs, notamment philae.com.
Mm-hmm.
Et au fil des années,
oui.
J'ai constitué donc un arbre absolument gigantesque d'environ 30 000 personnes. Bon, j'ai remonté très très loin parmi mes ancêtres. Et il se trouve que du côté de ma mère, presque tout le monde est vosgien.
Mm-hmm.
Alors, vous avez des vignerons, des paysans, des aubergistes aussi. Donc, je faisais 18e, 17e siècle, 16e siècle, 15e siècle, etc. Et de fil en aiguille, qu'est-ce que je découvre? Je descends des rois de France.
Ah.
À partir de Louis VII et de Constance de Castille au 12e siècle.
Mais ça, ce serait un sujet fantastique pour l'émission de Stéphane Bern et de... Vous pourriez passer facilement, je dirais.
Alors, Sana, vous ne croyez pas si bien dire. Cette découverte m'a tellement stupéfait que j'ai vérifié plusieurs fois, parce que je ne comprenais pas, étant donné que nous étions une famille de roturiers. J'ai découvert qu'il y avait des nobles parmi nos ancêtres.
Ouais.
Et à partir de là... Eh bien, c'est le jeu des alliances qui entrent en jeu, si j'ose dire. Il y a eu des mariages arrangés, il y a eu toutes sortes de lignées plus ou moins bourgeoises
qui
étaient nobles.
On se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé pour qui? Alors c'est pas une rupture, mais vous dites finalement que votre famille est plutôt roturière. Donc
oui,
est-ce que vous avez donc recherché, analysé l'histoire, finalement, la genèse de ce qui a pu se passer entre les rois de France et aujourd'hui?
Alors c'est très simple parce que les rois de France avaient plusieurs enfants, les héritiers mâles s'inscrivaient dans la lignée, hein, et les autres, notamment les filles, étaient mariées à des comtes, des barons, des ducs, et engendraient ainsi des lignées secondaires de nobles qui, au fil de temps, comme je vous disais, se sont embourgeoisés.
D'accord.
Et on donnait peut-être naissance à des notables de village qui se sont brassés à la population et de toute façon pour obtenir le résultat que nous sommes. Vous me parliez de Stéphane Bern.
Oui.
Figurez-vous que je lui ai écrit.
Ah.
Je lui ai adressé un email il y a quelques jours pour lui communiquer cette incroyable découverte, parce que j'aime beaucoup son émission Secret d'Histoire, qu'il m'arrive de regarder. Hein. Je m'étais toujours dit, moi je ne suis pas prof d'histoire, mais si j'en étais un, je recommanderais à mes élèves de regarder cette émission qui est vraiment très très enrichissante, franchement formidable. J'ai donc écrit à Monsieur Bern pour lui raconter mon histoire.
D'accord.
Si, sait-on jamais, ça pourrait l'intéresser, parce que je sais qu'il se passionne pour tout ce qui est les têtes couronnées de la planète.
Mmh.
Et il se trouve que pas plus tard qu'hier soir, j'ai reçu une réponse d'une certaine Pauline Legrand, qui est une coéquipière de Stéphane Bern.
Ah.
Elle m'a dit, monsieur, j'accuse bonne réception du message que vous avez adressé à Stéphane, donc via la Fondation du Patrimoine. Je vous remercie de votre fidélité, bon travail de M. Bern, etc. Il est actuellement en vacances. Je ne manquerai pas de transmettre votre message à Stéphane dès son retour. Toutes nos félicitations pour cette découverte et ce travail de recherche. Bon, je me dis, j'ai posé un jalon. Il se trouve que j'ai également écrit à Franck Ferrand, l'historien d'Europe 1, qui, bon, évidemment, lui aussi doit être absent, mais qui ne manquera pas de me répondre, j'imagine.
Mmh.
Et j'ai également écrit au comte de Paris.
Ah.
Jean d'Orléans,
oui.
Né en 1965, déjà père d'une descendance assez importante, et qui, lui, descend en droite ligne de la dynastie d'Orléans, bien sûr, des Bourbons, des Capétiens, des Carolingiens, et des Mérovingiens. Alors lui, il a tous les ancêtres connus, ce sont les siens. Donc ça doit être, à mon avis, dans le meilleur des cas, un cousin extrêmement éloigné.
Oui,
et à toutes les personnes dont je vous ai parlé, toutes les personnes à qui je me suis adressé, je propose de fournir mon ADN, si nécessaire, et de m'entretenir avec des historiens pour vérifier l'authenticité, bien sûr, de l'arbre généalogique.
Oui.
Parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on fait ce genre de découverte, hein. Même si, bien évidemment, je ne souhaite en tirer aucune gloire, aucun argent, pas de retombées mercantiles, c'est pas du tout l'objectif que je me fixe.
Justement, Frédéric, forcément, je vous écoute, et je trouve admirable le fait de rechercher comme ça son histoire, parce que c'est important de savoir d'où l'on vient, clairement. C'est quoi l'objectif? Déjà, je voulais savoir qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez fait cette découverte.
Écoutez, Sana, imaginez ce qu'un Français lambda peut ressentir lorsqu'il découvre qu'il est le descendant de Louis VII, Louis VI, Hugues Capet, Charlemagne, Clovis, Dagobert, Anne de Kiev, Florent de Hollande, j'en passe et des meilleurs. D'après vous, qu'est-ce que j'ai ressenti? J'ai cru basculer dans une nouvelle dimension.
Ah, génial.
Je m'étais piqué au jeu de la généalogie en amateur.
Ouais.
Je me disais, bon, bah, je vais découvrir du côté de mon grand-père, du côté de ma grand-mère, bon, il y a une lignée intéressante.
Ouais.
Je pensais que ça ne dépasserait pas les 15e et 16e siècles, hein, parce que vous avez les registres paroissiaux qui ne vont pas au-delà d'une certaine époque.
Ouais.
Avoir découvert déjà une lignée de nobles au travers, par exemple, d'Isabeau de Craon et des Valois, c'est déjà pas mal.
Mmh.
Ça m'a permis d'aller jusqu'au 14e, 13e siècle.
Ah,
et lorsque j'ai vu la connexion avec les rois de France, en plus, je suis tombé à la bonne époque. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Louis VII le Jeune est un capétien. Il est né en 1120, mort en 1180. Et sa seconde épouse, Constance de Castille, est une carolingienne. Bien qu'originaire du royaume d'Espagne, c'est elle qui descend de Charlemagne, de Charles Martel et de Louis Ier le Preux. Ce que je ressens, je me sens dépassé par les événements et j'ai l'impression d'être à l'aube d'un tournant. Parce que je pense que mon histoire peut intéresser des historiens, peut intéresser des spécialistes sur la question, des gens qui pourraient m'éclairer. Je pense que je suis le premier de ma famille à avoir fait cette découverte. Parce que grâce aux moyens actuels, on peut condenser toutes sortes de données. Comme je vous disais, les informations sont disponibles sur Internet. Mmh. Et je pense que mes grands-parents ignoraient une telle ascendance. Enfin, mon grand-père ne le savait pas. Pourtant, il est mort à 90 ans en 2002.
C'était la question, et c'était ma question après, c'était de savoir, est-ce que vous l'avez donc partagé à l'ensemble de la famille ?
Bien sûr. Oui. J'en ai parlé à mon frère, bien sûr. Oui. J'ai contacté un de mes oncles pour lui faire la remarque. Donc, il l'a pris plutôt sereinement. Il m'a cité les rois de France qui sont, comme vous le savez, tous inhumés à la basilique de Saint-Denis, hein, au nord de Paris. Je l'ai prié de contacter mes tantes et un autre de mes oncles. J'en ai parlé à mon père qui, lui, évidemment, n'est pas concerné par cette ascendance, mais qui n'y aurait jamais cru que lorsqu'il a épousé ma mère, si on l'avait dit, elle descend des rois de France, il n'y aurait jamais cru. Mais maintenant, grâce aux technologies actuelles, à l'ADN, on est tenté d'y croire. Et moi, tout ce que je recherche, c'est l'authenticité. J'en ai surtout parlé à mes amis. Mmh. Et il se trouve que l'un d'eux m'a orienté vers l'ancien conseiller du comte de Paris dont il avait l'adresse email, et ce qui m'a permis donc d'envoyer une bouteille à la mer à cette famille. Alors je ne connais rien du tout à la monarchie, hein, pas plus que le français lambda. Je ne suis pas coutumier du protocole aristocratique, hein. J'aimerais bien être mis en relation avec des prétendus descendants, enfin des gens qui ont du sang royal, afin de connaître leur opinion, parce que peut-être que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, étant donné que je me suis également découvert des cousins éloignés, vivants, qui eux aussi descendent de cette auguste lignée, et que je viens de prévenir par message privé sur le site. Parce que je suis en relation avec pas mal de cousins éloignés, des germains au premier, deuxième ou troisième degré, qui, eux aussi, descendent des rois. Et à qui je viens de l'apprendre au travers de messages, mais peut-être qu'ils sont en vacances eux aussi, donc ils le sauront tôt ou tard. Et je pense que si moi un jour je suis invité quelque part, je pense que ces cousins-là, eux aussi, qui sont vivants, méritent tout autant que moi d'être conviés à je ne sais quelle réunion, ou dans les bureaux de je ne sais quelle rédaction.
Donc si je comprends bien, pour le moment vous ne savez pas trop encore quoi faire de cette information. Si ce n'est continuer à investiguer, hein, clairement. Mais pour le moment, c'est peut-être encore prématuré de vous donner un projet ou continuer à chercher, en tout cas, si je comprends bien.
Eh bien, si quelqu'un parmi vos auditeurs est en mesure de me renseigner, je suis preneur de l'information.
De vous renseigner sur...
par rapport aux associations monarchiques, par exemple. D'accord. Les associations monarchiques, peut-être puis-je être mis en relation avec un secrétariat et ainsi raconter mon histoire qui, je n'en doute pas, devrait intéresser forcément un consortium, que ce soit des descendants de la couronne ou bien des historiens, tout simplement.
Frédéric, vous nous dites que vous aviez déjà contacté Olivier Delacroix, donc trois fois. Est-ce que c'était exactement la même demande ou qu'est-ce que vous aviez...
Pas du tout. Non, les premières fois, je parlais des tests ADN. D'accord. Et je lui avais raconté l'histoire de mon trisaïeul chinois qui était venu du sud de la Chine, donc de Canton, dans la région du Guangzhou, en qualité de travailleur volontaire. À l'époque de la conquête de Madagascar, et il s'était métissé avec les populations locales, Parce que ce que vous ne savez pas, ce que j'ai oublié de vous dire, ce que peut-être vos auditeurs ne savaient pas, c'est que mon père est noir, très noir, de type africain, originaire de l'île de Mayotte, et en fait c'est son arrière-grand-père qui est chinois, et ça on ne le savait pas. Et c'est ce qui explique ce gène, mon apparence, parce que je ne ressemble pas à un métis africain, ma peau est extrêmement blanche, c'est vrai que ma mère est blonde, mais ça n'expliquait pas tout. Et j'avais surtout raconté à Olivier l'histoire de comment dire du peuplement des Mascareignes, hein, la conquête par le général Gallieni des îles de l'océan Indien. Mais à l'époque, je ne savais pas du tout que j'avais une ascendance royale, fût-elle lointaine. Je l'ignorais totalement, et c'est la découverte que je viens d'effectuer le mois dernier, et qui me laisse dans l'état que vous pouvez imaginer.
Et ça, c'est du côté de votre maman.
Du côté de ma mère, oui.
Et du côté de votre père, est-ce que vous avez commencé à investiguer ou pas du tout?
Alors, du côté de mon père, c'est plus difficile parce que la lignée n'est pas aussi bien renseignée. Hein. Vous savez, les Français sont arrivés au milieu du 19e siècle à Mayotte et à La Réunion. Et ils ont tenu des registres paroissiaux essentiellement pour les colons, et malheureusement les ancêtres africains n'avaient qu'une tradition orale, donc ce qui fait que je suis bien incapable de vous dire d'où ça remonte. La seule chose que je puis vous préciser, c'est que mon père avait un grand-père breton. Je sais qu'il est originaire donc de l'ouest de la France, cet arrière-grand-père. Hein. Je suis parvenu à remonter jusqu'en 1850, mais après je ne suis pas parvenu à établir de connexion. Pour l'instant, c'est une zone d'ombre que je laisse de côté. Je préfère me concentrer sur la généalogie du côté de ma mère, qui est bien mieux renseignée, bien plus importante, beaucoup plus étoffée. Et continuer d'en apprendre davantage.
Voilà, j'ai dit, c'est très prometteuse. Frédéric,
oui,
je vous entends.
J'ai fait.
C'est passionnant ce que vous nous dites. Et si, par exemple, je suis intéressée de rechercher mes ancêtres, quel est le site, ou en tout cas, qu'est-ce que vous me recommandez pour ce qu'il y a de mieux pour retrouver mes ancêtres?
Puisque vous me demandez de faire la publicité, je vous conseillerais Généanet, mais je vous conseille également en parallèle de fournir un échantillon d'ADN, hein, il existe plusieurs plateformes, parce que ça vous permet non seulement de connaître vos origines ethniques, mais aussi d'être mis en relation avec des gens qui partagent votre ADN, des inconnus du monde entier.
D'accord.
Et avec qui vous pouvez échanger des informations et ainsi compléter votre arbre généalogique. Moi, c'est ce qui me permet de faire une pierre deux coups depuis 3 ans ce mois-ci. Je sais que je suis peut-être à l'aube de nouvelles découvertes, mais en tout cas, j'en ai fait un sacré nombre. Hein. Croyez-en mon expérience, je dépasse aujourd'hui les 32 000 individus dans mon arbre généalogique. Alors, évidemment, ce ne sont pas que des personnes apparentées, c'est aussi les belles familles, hein, bien sûr, vis-à-vis desquelles je n'ai pas de lien de sang, mais ça fait quand même du monde. Et vous avez l'impression de voyager à travers toute l'Europe. Vous avez l'histoire de l'humanité, quelque part, l'histoire du vieux continent, en tout cas. C'est prenant, c'est dantesque. Et je recommande franchement
malheureusement
aux gens de s'investir, ceux qui veulent connaître leurs origines.
Merci infiniment, voilà, Sana. Frédéric, c'était passionnant. Merci.
Je vous en prie.
Beaucoup.
À très bientôt. Bonne soirée, Sana.
Merci,
et bonjour à toute l'équipe.
Merci.
À très bientôt.
Je transmets.
Merci, au revoir.
Merci à Sylvie, Marc, Jeanne et Frédéric. On se retrouve demain soir à 22h. Douce nuit.